Bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui, nous vous proposons une série d'interviews réalisées aux Coupes Moto Légendes qui se sont déroulées le week-end dernier sur le circuit de Dijon-Prémois. Pour commencer, nous avons rendez-vous avec Guy Coulon, personnage emblématique du sport moto. Guy Coulon, chef mécanicien de génie en moto GP, a grandi dans un petit village en Mayenne et est devenu au fil des années le génie ou encore le MacGyver de la mécanique moto. Après, il était une fois le Continental Circus et Johann Zarco l'Audace na Champion. Bernard Faux, ancien pilote des années 70-80 et cinéaste, se lance dans la réalisation d'un troisième film, Noce d'or pour un bol d'or. Le bol d'or, la course d'endurance la plus populaire, avec un coup de projecteur sur l'édition 76 pour raconter le suspense et l'enthousiasme vécu par 100 000 spectateurs. Daniel nous invite le 14 juin prochain pour la 11e montée historique du Beaujolais au Mont Bruy. Une nouvelle édition placée sous le signe de la passion, des bécanes historiques et de la convivialité au cœur des magnifiques routes du Beaujolais. Et pour terminer ce sommaire, Patrick, le président, et Brice du Coyote Racing Team invitent tous les motards aux 29e journée Coyote qui se dérouleront les 8 et 9 août prochains sur le très beau circuit de Nogaro où chaque année, ces journées regroupent plus de 260 pilotes passionnés de vieilles bécanes. Voilà, restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes avec notre sorcier de la mécanique, Guy Coulon. A tout de suite. What to do? sommes avec Guy Coulon. Nous sommes toujours au circuit de Dijon-Prémois, ici, Coupe Moto Légende. Guy, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Alors, j'ai du mal, t'es une légende des motos, des grands prix. J'aimerais que tu nous dises un petit peu, tu nous racontes un peu ta carrière, un petit peu ta vie.
Vous avez déjà
une synthèse.
À peu près tout résumé.
Ça va durer longtemps.
Oui, moi j'ai commencé la course début 74, la saison 74. Et puis, au début, à faire des courses de côte du championnat de France. À cette époque-là, il y avait vraiment beaucoup de courses de côte, surtout dans l'Ouest, qui était ma région d'origine. Et après, championnat de France, etc., à partir de 79, championnat du monde en endurance. Et à partir de fin 82, j'ai rejoint Honda, le team officiel pour l'endurance, le Paris-Dakar et les Grands Prix 2,5. Donc ça a perduré jusque fin janvier 89. Et ensuite, avec Hervé Poncharal, on a créé Tech 3. Et là, c'est plus simple. On a fait Tech 3 de de 89 au 31 décembre dernier, où on a vendu Tech 3. Voilà.
Oui. Voilà, et c'est toute une vie. En fait, ça fait combien ? Ça fait 40 ans, 50 ans ? 40 ans.
Plus de 50.
50 ans ?
Oui, de 74.
De sport moto.
Voilà, de 74 sport. À
tu as baigné dans les Grands Prix, tout ça ?
Oui, ça fait 52 saisons, je crois. Oui, oui.
Oui, alors...
De 74 à fin 2025.
Ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est que une saison, quand on commence au mois de mars, tous les 15 jours ou tous les semaines, il y a un Grand Prix, il faut bouger. Hein. Donc on ne rencontre pas sa famille, on baigne dans l'actu du sport moto. Hein.
Oui, dans les années 80, c'était 12 Grands Prix l'année.
Oui, et maintenant c'est 44 avec les courses sprint.
Ouais, voilà. Oui. Voilà, plus les temps d'essai. Oui. Etc.
Plus c'est en vie,
là, ça devient très, très, très chaud, quoi.
Et donc, ça, c'est compliqué, c'est prenant.
Oui, faut être dedans, quoi.
Faut être dedans, ouais.
Oui, faut pas le...
Comment ça se passe au niveau de la vie privée, comment ça se passe ?
Il n'y en a pas trop, en fait. C'est un choix de carrière, finalement.
C'est un choix de carrière, ouais.
Mais par contre, maintenant, les gens qui sont dedans, ils peuvent rester jusqu'à la retraite, comme ce que j'ai fait. Moi, j'ai fini à 71 ans passés, parce que vous êtes nourri, logé, payé, déclaré, vous avez votre retraite, tout.
Oui.
Vous pouvez faire une vraie carrière. Alors que dans les années 70-80, quand j'ai débuté, vous étiez plus ou moins bénévole, et puis vous faisiez ça très souvent pendant 2-3 saisons, puis après, il fallait aller vraiment travailler pour assurer la suite. Donc tout ça s'est très professionnalisé. Et ça a changé beaucoup de choses.
Alors, on te connaît, Guy, comme un perfectionniste de mécanique. T'es quelqu'un qui est vraiment qui sait toucher à la mécanique, faire des super réglages aussi.
J'ai été élevé là-dedans parce que mes parents avaient une entreprise de travaux agricoles. Donc moi, j'ai commencé dans les tracteurs, les ensileuses, etc. Moissonneuses, batteuses, pressage de foin. J'ai mes premières fiches de paye en juillet 69. Où je faisais du pressage de foin à 14 ans.
Ah oui.
Voilà, ce qui était légal à l'époque.
Oui.
Donc, j'ai été dedans dès le plus jeune âge, voilà. Et puis, Jean-Baptiste, mon papa, il m'avait promis pour mes 10 ans m'emmener au salon de la machine agricole.
Oui.
Il a fait. Et aux 24 heures du Mans voiture. Donc j'ai fait les 24 heures du Mans voiture en 65, 66, 67, qui sont des années de légende, mais quand vous êtes dedans, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes vous assistez à une course de légende, mais c'est après que vous vous rendez compte, j'ai vu les...
C'était quelque chose.
J'ai vu les Ferrari, les Ford GT40, les MK2, les machins, les Alfa, etc. Et j'avais été très impressionné à mon jeune âge du bruit des moteurs, notamment les 12 cylindres, qui tournaient très vite. Et ça m'intriguait. Je pensais que le lendemain, il ne pourrait plus tourner, que jamais il finirait la course. Donc le lendemain matin, on est dû rentrer vers les minuit. Et le lendemain matin, quand j'ai été réveillé, je me suis précipité à la radio pour voir si ça tournait encore. Ça me paraissait irréel.
Et c'est ça qui t'a...
Ah, oui, alors dès ce moment-là, je me suis dit...
c'est donné la fibre, la mécanique.
Voilà, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse.
Oui.
Voilà.
Et donc, comment t'es parvenu à la moto? Comment t'es rentré dans la moto?
Commencer par les courses locales.
Oui.
Ensuite, j'ai monté mon team en endurance. Ça a pas mal marché. Bernard Fou pourra vous en parler parce que lui était dans le team d'usine et on lui creusait du tracas de temps en temps. Donc là, Jean-Louis Guillou, le team manager de Honda Racing pour l'endurance, m'a demandé de venir travailler avec eux et ce que j'ai fait. Voilà.
Mais avant, tu as bossé dans les rallye raids aussi?
Alors non, pas avant. C'est-à-dire, quand j'étais embauché chez Honda, à cette époque-là, oui, c'était une douzaine de Grands Prix. Et le dernier Grand Prix, c'était traditionnellement le week-end d'avant le Bol d'Or, c'est-à-dire tout début septembre. Donc on faisait les Grands Prix 2,5, avec Dominique Sarron, notamment à l'époque. Je faisais les courses d'endurance, la dernière étant le Bol d'Or, mi-septembre. Et il y avait 5-6 courses à l'époque, donc qui étaient... pas en concurrence de date avec les Grands Prix, donc je faisais 2,5 endurance, et quand on rentrait du Bol d'Or, on attaquait le Dakar. Et j'ai fait 7 Dakar avec Honda, dont 4 avec les Proto NXR et 4 victoires.
Ah oui, pas mal.
Oui, c'est intéressant. surtout que les Japonais connaissaient très peu le Dakar. Donc on a été beaucoup sollicités, on a beaucoup travaillé... directement avec eux, on a participé au cahier des charges. J'ai même fait pilote d'essai sur la piste d'essai au Japon. Donc on était très impliqué là-dedans parce qu'ils ne voulaient pas que les pilotes aillent sur place pour des raisons japonaises, je dirais. Donc j'ai fait pilote d'essai. J'étais allé aussi. Donc le cahier des charges a été établi plus ou moins fin janvier à la fin du Dakar 85 pour faire le prototype de 86. Et je suis allé, je crois, la première semaine d'août, dans un premier temps, pour faire les positions sur les motos. Voilà, je suis allé une journée au Japon, on a fait les positions, je suis revenu. Et voilà.
Ok. Si on revient un petit peu au Grand Prix, MotoGP, ça peut être pas très longtemps que tu as pris, on va dire, ta retraite.
Là, ça fait 5 mois. Oui.
5 mois, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que tu as connu le Continental Circus.
Oui, oui. Mais...
Et l'évolution aussi. L'évolution du mode des courses moto. Hein.
J'ai pas vraiment de nostalgie de l'ancien temps.
Ça.
Où ça rejoint ce que je disais précédemment, que... tu le faisais par amitié pour un pilote, des choses comme ça, mais t'étais pas payé, t'étais dans des conditions extrêmement difficiles, c'était compliqué. Maintenant c'est devenu un métier où tu peux manger, quoi.
Oui.
Donc moi j'aime bien la situation actuelle. Techniquement, là il y a les motos les plus abouties qu'on a jamais vues. Donc pour un technicien, forcément c'est intéressant, quoi. Pour l'année prochaine, il va y avoir une petite révolution technique.
En 8,50, oui.
8,50, et puis des tas de choses qui vont être modifiées. Ça, c'est nécessaire de temps en temps pour raviver l'innovation technique.
D'accord.
Parce que, bon, là, tous les techniciens, ils pensent comment on va faire pour contourner les problèmes, quoi, imposés par
l'environnement. Ah oui, c'est ça, c'est contourner les problèmes. Le règlement, en fait, c'est ça.
Contourner légalement le règlement,
oui.
pour essayer d'être meilleur que les autres. Quoi.
Que
si vous ne le faites pas,
oui.
C'est une faute professionnelle, parce que les autres vont le faire. Hein. Alors c'est un vrai défi à chaque fois pour tout le monde. Et puis il faut...
Raconte-nous une course. Parce que quand ça commence le vendredi ou même le jeudi, hein, maintenant. Voilà. On espère que le pilote va terminer aux premières places.
Là, tous les jours.
Comment ça se passe, l'adrénaline, pour le team?
Oui, maintenant, tous les jours sont extrêmement tendus. Parce que vous commencez le vendredi matin, vous avez la première séance.
Oui.
C'est pas très long. Le vendredi après-midi, il faut essayer de passer en Q2 direct.
Voilà, c'est ça.
Si vous n'êtes pas en Q2 direct, vous êtes mal.
Et alors?
Eh bien, alors, t'as pas beaucoup de temps pour te retourner, c'est très tendu, compliqué. Et voilà, quoi. Et puis le samedi après-midi, il y a déjà une première course, et puis le dimanche, tu recommences.
Et ouais, c'est chaud.
Il y a 3 journées de course,
ouais.
Mais c'est 3 journées où Il n'y a pas de répit, quoi.
D'accord. Et s'il y a une chute et des dégones là, sur la moto, parce que toi, t'es un peu mécanicien. Hein, t'es voilà, t'es pas un peu, t'es mais le mécanicien du team.
Eh bien, il y a encore plus de...
Comment on fait?
Il y a encore plus de
si tension. La moto est détruite.
Ben, vous en faites une autre.
Ah oui.
Voilà, ce qui arrive, en... bon, c'est en faire une neuve en 3 heures.
Une neuve en 3 heures.
Ouais, ça se fait.
Est-ce que tu vas passer des nuits à refaire des motos éventuellement, je ne sais pas, une question que je te pose. Hein.
Des nuits, à part au Dakar, non.
Non.
Ou depuis très longtemps, parce que normalement, on a suffisamment de pièces ou de groupes de pièces de préparer pour réagir vite.
Ah, ouais.
Mais bon, les procédures font que on doit mettre en route 2 heures avant la première séance. Parce que c'est le temps qu'il faut pour changer un moteur tranquillement.
Oui.
S'il y a un problème au démarrage, donc... Il faut être là 2 heures avant.
Oui.
C'est-à-dire, il faut être opérationnel un petit peu avant 8h du matin. Donc si tu es à l'hôtel, machin, etc., il faut être préparé, il faut être venu. Il faut prendre du gras parce que quand il y a beaucoup de monde, tu mets du temps pour rentrer. Donc tu te lèves tôt. Et bon, en général, tu n'as quand même pas fini avant 22h.
Ah oui. Donc mécanicien moto, c'est faut du courage.
Oui, mais bon, moi j'ai beaucoup travaillé à l'usine au Japon, donc dans mon jeune temps, je suis allé plus de 120 fois au Japon, alors déjà passer un peu de temps, rien qu'à y aller et à revenir. Je suis resté environ 2 ans à l'usine entre 84 et 88, où on faisait 54 heures la semaine, c'était pas 35 heures, c'était 54 heures la semaine. Et on rajoutait 100 heures supplémentaires par mois. Donc, quand tu reviens en Europe, bon, c'est pas trop dur, quoi.
Et Guy, petite question, valise ou tournevis? Les deux, qu'est-ce que tu préfères?
Bah, je suis plutôt tournevis, formation.
Donc, en fait, t'as pas de diplôme d'ingénieur de mécanique,
non,
alors
parce que...
T'es vraiment autodidacte, hein.
Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est plus possible, maintenant.
Oui.
Parce que maintenant...
Effectivement, c'est la question que je posais. Est-ce que tu penses qu'on pourrait refaire ta carrière avec quelqu'un qui arriverait dans le MotoGP?
Impossible, les gars comme moi, c'est dinosaures, ça n'existe plus. Moi, j'ai pu parce que j'ai commencé sur des motos simples en tant que mécanicien. Et le mécanicien, c'était le personnage clé, en quelque sorte. Donc, et au fur et à mesure que les techniques ont évolué, ben, j'ai évolué avec. Donc, tout à petit, je me suis mis au niveau tout à petit de... alors que maintenant... Pas possible, il faut que le gars il soit au niveau de la moto, c'est-à-dire faut que...
Tout de suite.
Eh ben oui.
Oui.
On va pas mettre 5 ans à le former, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Donc, faut qu'il soit bon d'entrée, qu'il soit au niveau, qu'il parle bien l'anglais, faut qu'il sache écrire quand...
Ah oui, l'anglais, il faut parler l'anglais aussi.
Oui, bah oui.
Ouais.
Mais...
Oui, bah c'est important.
Les gars qui ont une bonne formation, dans la formation qu'ils ont eue, ils parlent forcément l'anglais, quoi.
Alors, t'as quitté le course il y a combien?
Il y a 4 mois.
Il y a 4 mois, ouais. Hein. C'est pas trop dur?
Pas du tout.
Non?
Non, parce que...
Parce que 40 ans, 50 ans dans...
Non, non, mais dans... parce que tu y penses déjà un peu avant, et puis...
Oui.
Finalement, pour moi, ça ne change pas grand-chose, à part que je ne vais pas sur le circuit, mais entre chaque course, je vois tous les gars qui sont là, avec qui... parce que moi, j'ai racheté un des ateliers, l'atelier où on fait la mécanique, les machines-outils, etc., que je loue à Tech 3, notamment pour l'usage de ces machines-là. Donc, je suis au contact. Il y a juste que je ne suis pas sur le circuit, mais ça ne me manque pas du tout. Et puis, je me suis préparé à ça.
Tu es un retraité heureux.
Voilà, donc je commence tous les matins à 8h30.
Oui.
Je finis à 19h, le samedi, le dimanche, les jours de fête, tous les jours, à part quand je suis là.
Est-ce que tu regardes les Grands Prix à la télé?
Ah bah oui, évidemment, toutes les séances.
Et... Toutes les séances, oui.
Voilà.
À partir du vendredi.
Oui, bien sûr.
La Q1, la Q2, et les qualifs et tout
ça.
Oui. Ok, bah écoute. Et bah, je voudrais que tu me parles de cette moto, hein, cette Honda là, que vous avez remontée, là, vous étiez deux.
Qu'on a refabriqué.
Cette fameuse Honda, la 6 cylindres, là.
Oui.
C'est fabuleux ce que vous avez fait, là.
Ben, à vrai dire, quand on a été à peu près la moitié, on regrettait d'avoir commencé.
Ah oui.
Mais voilà, ben oui, il a fallu le faire. Mais ça a duré des années. Il faut des contacts, des réseaux,
oui,
pour avoir ce que vous avez besoin. Ouais, ça...
On m'a dit que t'allais chiner des réservoirs, quelquefois des pièces, dans le stand où t'es trop, et tu dis ça sert à rien, je vais prendre ça.
Non, pas réellement.
On m'a dit ça, enfin moi.
Ouais, c'est des mauvaises langues.
Ouais, des mauvaises langues.
Non, en fait, pour faire ce genre de machine, il n'y a rien qui existe.
Oui.
Donc vous devez tout faire, à part les dessins qui nous ont été prêtés ou loués par le Japon. Et puis avec ça.
Oui, alors ce que j'ai appris, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de. Les mécaniciens au Japon, dans les années 70-80, il n'y avait pas de cahier des charges. Hein, les gens, ils travaillaient un peu comme ça, à l'arrache, un peu, hein, on va dire, à l'arrache.
Pas vraiment. C'est-à-dire, bon, il y a les ingénieurs qui faisaient. Parce que on peut voir ça comme ça si on n'est pas très habitué à la façon de faire des Japonais. Mais il y a un encadrement très fort et avec des meetings, des plans, des choses comme ça.
Ouais.
Alors je suis allé souvent au Japon, je les ai beaucoup pratiqués. Il y a des clans. Il y a des clans même à l'intérieur d'un service course dans une usine. Et si vous êtes pote avec un clan, sans vous en rendre compte, vous êtes automatiquement l'ennemi des autres.
Ah oui.
Mais quand il y a un objectif qui est défini, tous ces gars-là, ils arrivent à travailler ensemble.
Ensemble. Quoi.
Voilà, dans la même direction. Même s'il y en a qui sont complètement opposés à la direction qui a été prise, ils vont quand même travailler de manière positive dans la direction.
D'accord.
Ça, c'est clair. Alors, il y a un truc qu'il faut faire attention quand tu es un gaijin, un étranger, là-bas. C'est très compliqué au début quand vous parlez rien, enfin pas comme eux, de savoir qui est avec qui. Il faut faire très attention à ça. De pas être trop marqué avec un groupe pour pas être trop démarqué de l'autre. Voilà, c'est tout un...
Et Guy, avec les Autrichiens, c'était différent ?
Oui, il y a surtout beaucoup d'Italiens chez les Autrichiens.
D'accord.
C'est différent parce que on a quand même la même façon de penser, on parle à peu près les mêmes langues, c'est assez facile de se comprendre. Ce qui m'a le plus impressionné chez eux, c'est justement les Italiens du Nord, là, les compétences et la quantité de travail qu'ils font. Quoi. Rien qu'à les regarder, t'es fatigué. Quoi. Y a beaucoup de techniciens italiens qui sont partout, y compris chez les Japonais maintenant, parce que déjà, c'est des passionnés qui travaillent, contrairement à ce qu'on pourrait penser de chez nous, et c'est une erreur, ils travaillent énormément, du matin au soir, ils ne s'arrêtent pas le midi. Moi, ils m'ont impressionné. Il y a Padoue et l'Université de Bologne qui forment des ingénieurs spécifiques à la course moto pour ces niveaux-là, et on les retrouve partout. Et c'est pas étonnant si... les usines italiennes en ce moment sont devant parce que ils travaillent beaucoup et ils travaillent fort.
D'accord.
Donc c'est pas qu'une vue de l'esprit, hein. Sur la piste ils sont là quoi.
D'accord. Écoute, on va terminer cette interview parce que j'entends que ça chauffe le concert derrière nous là. Mais j'ose pas, si je peux te poser une question, qu'est-ce que tu penses de parce que tu l'as côtoyé, Johann Zarco? Qu'est-ce que tu penses de Johan?
Ben que du bien, moi. J'ai été 2 ans son chef mécano en MotoGP chez Yamaha, où on avait d'excellents résultats, où on finissait régulièrement devant les 2 pilotes de l'usine avec des motos qui avaient 1, 2, voire 3 rangs en dessous. Parce que notamment il y avait un pilote avec le numéro 46 qui supportait pas être derrière, donc qui allait faire du lobbying chez Honda et qui faisait réduire nos nombres de tours pour éviter qu'on le passe.
Ah oui.
Donc c'était compliqué quoi.
Parce que nous en fait Johan on l'aime bien, nous.
Moi aussi.
Je pense que voilà
dommage.
Johan Zarco c'est notre chouchou, c'est notre pilote chouchou, favori.
Dommage qu'il soit un peu vieux maintenant.
Oh, c'est ça.
Oui non mais c'est vrai. C'est vrai.
Il va être à Paris.
Ce qui prouve aussi la longévité exceptionnelle de sa carrière et la qualité de sa carrière. Quoi.
D'accord.
À part Marquez, qui a eu le titre l'an dernier à 31 ou 32 ans, il n'y a jamais eu un pilote MotoGP qui a eu le titre après 30 ans.
Oui.
Vraiment.
C'est ça.
Parce que, d'une part, il faut être très souple. Pour être efficace sur la moto, il faut être très souple. Donc la vieillesse arrange pas pour ça. Et aussi le cumul des petits incidents sur chute qui vous causent des problèmes et d'articulation, de choses comme ça. Et quand vous voyez Marquez maintenant, il a toujours autant de talent qu'avant, mais c'est plus le même chat sur la moto. Et là, ces problèmes d'épaule, etc., je crains que ça ne soit la fin.
Et Guy, est-ce que tu penses que les Japonais, ils ont encore envie ?
Ah ben oui, eux, ils sont en vie, puis c'est une question de vie.
Est-ce qu'ils ont encore envie de gagner les courses ?
Oui, oui, et pour eux, c'est une question de vie ou de mort, hein. Parce que avec les Chinois qui arrivent, comme les Japonais sont arrivés dans la fin des années 60 par rapport aux Anglais, ils les sentent souffler fort dans leur dos, quoi. Hein.
D'accord.
Et quand ce qu'ils craignent à bloc, c'est s'il y a du Chinois qui arrive en MotoGP et qui font GE Gall ou qui passent devant.
Qu'est-ce que tu en penses de cette moto chinoise là, qui arrive, c'est pas très cher hein, sur le marché hein, et qui sont de plus en plus performantes hein.
J'ai connu le passage des motos européennes aux motos japonaises, c'était exactement le même problème, c'est-à-dire que c'était performant, ça cassait pile, ça pissait pas l'huile, c'était moins cher. Donc il y a eu un peu de résistance au début et puis après tout le monde a succombé et là je crains que ça ne soit pareil.
D'accord.
Et ce serait l'affront pour les Japonais de se faire.
C'est les nécessités, je dirais, technico-financières qui font que. Bon, là les Japonais en ce moment, le gouvernement japonais fait bien attention que le yen il soit très faible. Ce qui favorise leur exportation. Message que ça va pouvoir durer pour eux, parce que moi j'ai connu le yen quasiment à parité avec l'euro, hein, à 1,06 yen pour 1 euro, et là c'est quasiment 1,80, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ce qu'on achète chez eux, ça coûte quasiment la moitié de ce qu'on achetait en 2000. Donc ça favorise leur exportation, mais s'ils tiennent pas le coup comme ça, ça va être dur.
Dernière question, Guy, est-ce que si on avait une deuxième vie,
bon, on refait la même.
Choisir. Est-ce que tu refais la même chose ?
Oui, on refait la même, parce que
sans hésiter.
Sans hésiter, parce que j'avais des compétences qui n'étaient pas illimitées et je les ai bien rentabilisées. Donc faire autre chose, j'aurais peur de pas les utiliser aussi bien. Donc on va garder cette option.
Donc tu refais. Jamais on ne. Voilà, ouais,
bon. On fait pareil.
On sait jamais, hein. Peut-être qu'on sait pas. Hein,
peut-être les mêmes erreurs.
Et Guy, maintenant on te verra un peu plus dans les manifestations de moto classique et compagnie, quoi.
Bah, c'est pour ça que je suis là, puisque je t'ai jamais venu. Et puis là, j'ai fait Le Mans avec les 6 cylindres à la demande de Honda. On a fait la SRC où je ne devais pas aller à la demande de Honda. On est venu ici parce qu'on avait prévu de venir ici. Saint-Sergue dans 2 semaines, c'est la même chose. Et j'ai aussi promis à Bretagne Classique y aller fin juillet.
Alors, c'est pire que les Grands Prix, hein.
Quasiment, c'est une cadence infernale, mon pauvre.
Donc c'est une reprise d'activité.
Ah oui.
Accumule des mandats.
Tout pendant que notre moto résiste.
Ouais, voilà, merci Guy, cette interview, c'était super sympa.
Bonne soirée.
Merci. Alors c'était pour Radio Campus Lille et pour Kick'n'Coute et tout pas l'émission des motards le dimanche à 11h.
J'ai y pensé à Kick'n'Coute parce que ma moto de route, c'est une BSA Rocket 3 de 71.
Et qui démarre au kick.
Qui ne démarre qu'au kick.
Ah, bah voilà. Donc, nous, on aime bien.
Je penserai à vous dès lundi.
Merci Guy.
Bonne soirée.
Merci. Au revoir. Kill me and I will.
Un clap, ça tourne.
Ouais. Première
Dijon moto légende. Kikinkou.
Tétoupal. Ouais.
Tétoupal.
Ouais.
Bernard Faux.
Nos d'or. Bol d'or. Tu dis comment?
Alors allez, vas-y, on commence. Bernard, bonjour.
Bonjour. Oui.
Enchanté de te rencontrer ici sur le circuit de Dijon Prémois pour les.
Putain, il rentre dans le champ.
Allez, on recommence. Tu bouges plus, tu dis plus rien maintenant.
Le bourrin.
Oh, mais bon.
Non, mais attends, il n'est pas habitué, c'est normal.
Non, mais t'es pas obligé.
On n'est pas tous des vedettes.
Un cadre.
Bernard, bonjour.
Bonjour, la vie.
Enchanté de te rencontrer aujourd'hui sur le circuit de Dijon-Prémois pour les Coupes Moto Légende.
Oui.
Voilà, tu te lances dans une nouvelle aventure.
Oui.
Un troisième film.
Oui.
Après le Continental Circus.
Il était une fois.
Le Continental Circus et Johann Zarco. Tu te lances maintenant dans Nos d'Or pour un bol d'or.
En effet.
76.
Puisque ce bol a eu lieu il y a 50 ans. Et c'est le moment de fêter les noces d'or. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que ça représente, c'est 50 ans. Et surtout aussi parce que j'ai récupéré des images qui étaient plutôt très intéressantes de Peter Starr. J'ai récupéré des images à l'INA, tout ça à un certain coût, mais la qualité est là. Parce qu'à l'époque, TF1 avait même filmé en direct le départ du bol d'or. Voilà.
D'accord. C'est sous souscription.
Alors, c'est sous
pour l'instant, tu as récupéré toute la somme.
Mais ça démarre pas mal, puisque au bout d'un mois, j'ai un tiers de la somme. Un tiers de la somme, parce que le film va coûter 35-40 000 euros. Quoi. Donc voilà, je fais les calculs.
Alors, dis-nous pourquoi le bol d'or, parce que. Et 76 ?
Parce que 76, d'abord.
C'est l'anniversaire.
Ça fait un anniversaire, oui. Je te dis. Les circonstances de récupérer des images exceptionnelles me poussent à m'intéresser à l'endurance. En plus, là, c'est une anecdote, mais j'ai une revanche à prendre sur l'endurance, puisque j'ai fait 7 départs du bol d'or et je n'ai jamais vu l'arrivée sur toutes les marques. Donc, j'aimerais cette fois-ci finir.
Finir
et en succès, en roue arrière.
Et voir le drapeau à Damier.
Et voir le drapeau à Damier, c'est-à-dire dans une salle de cinéma où d'un seul coup s'ouvre l'histoire du bol d'or. Parce que le paradoxe, c'est que c'est à la fois la course la plus connue, et même presque mondialement peut-être, en France, et à plus de 100 ans. Et il n'y a eu aucun film fait autour de ça. Il y a des images, il y a eu... autour du centenaire, il y a eu des images un petit peu en vrac, mais quand je dis un film, ça veut dire d'une qualité cinématographique et puis aussi avec
un montage
et la durée, quelque chose que
En salle, quand tu t'assieds, tu restes 1h50 et tu t'ennuies pas.
Très bien. Et tu as déjà à peu près la vision un peu du film, comment ça va commencer et
alors,
le pitch.
Le pitch, c'est ce bol d'or qui a commencé il y a plus de 100 ans. Donc, on va dire quelques images de rappel, quelques images d'un des héros, Lefèvre, Tatave, parce que je connais bien son fils et je suis sûr qu'il va me raconter des histoires autour de Lefèvre, que j'ai connu, qui travaillait chez Garot, non, à Portateur Norton, qui a gagné 7 fois. Et puis, surtout... en hors d'œuvre, le retour du bol à Montlhéry, puisque je suis spectateur et que je vis ça en direct. Je suis gamin, adolescent, disons, et je vois gagner Rougerie avec la Honda. Et on va dire que c'est un boom. J'ai l'impression que la course en France démarre là, quoi. La Honda qui sort, qui gagne le bol, et un mois après, elle est au salon et elle se vend comme des petits pains. Donc j'ai des images de ça, voilà. Et puis après on arrive au plat de résistance, une fois qu'on a eu la mise en bouche, qui est le bol 76, où là je peux raconter dans le menu avec tous les détails la course, parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements, donc il y a une petite dramaturgie, quoi. C'est-à-dire il y a eu un suspense, puisque les Cowboys Boulogne et Saron sortaient de la Coupe Kawa l'année d'avant. Ils démarraient la course l'année d'avant et ils étaient déjà en position de gagner le bol, parce qu'ils ont été en tête, ils sont tombés 2 fois. Mais petite chute, mais ça leur fait perdre le bol, quoi. Et Chemarin, c'est sa première victoire. Et la première victoire aussi, je crois, de la RCB Honda qui arrive. Donc il y a pas mal d'événements.
Donc tu as fait de la vitesse, hein, on rappelle, hein, quand même. Et tu as aussi. Tu as fait. Cette course d'endurance.
Disons, non, j'ai fait plus que ça. J'ai fait 7 bols d'or.
7 bols d'or, hein,
que je n'ai jamais fini.
Mais que tu n'as jamais... Alors, justement, explique-nous un peu pourquoi tu n'as pas fini.
Bah, déjà, en 76, mon coéquipier met la moto en vrac dans le chemin au bœuf. Donc, moi, je ne mets même pas le cuir. La moto est détruite, on abandonne au bout d'une heure. Jean-Claude Meillan. De toute façon, on n'était pas dans le coup, on était loin. C'était une moto Kawa préparée par Gavory. Après, sur Kawakul, au Castellet, le bol d'or avec Baldé, mais on casse aussi. En plus, j'ai eu droit à l'huile sur le pneu arrière, donc dans le bosset, boum, sur le toit, aux essais. Après, la première Suzuki, beaucoup de gens ne le savent pas, mais la première Suzuki officielle, c'est Michel Rouget et moi, en 79, et on va au Japon pour la mettre au point, et on finit pas. Casse, puis Michel tombe sur une crevaison. Et puis après, Honda, je fais une pige. Honda engage une 3e moto, comme souvent il faisait au bol. Donc avec Fucci, je joue la pole avec Roche aux essais. On est en tête au bout de 2 heures, on casse la chaîne de distribution. Bon, bingo. On est à l'hôtel le soir. Et le lendemain, enfin plutôt l'année d'après, je suis officiel Honda. Et au bol aussi à nouveau, où là, à 2 heures de la fin, je commençais à croire à la victoire. On était 2e, on remontait sur la Kawa de tête. Et j'ai à peine pensé qu'on allait peut-être gagner, que 5 minutes après, je prends le moteur dans la tête, avant signe, donc abandon. Et puis la dernière fois, avec la Elfe, alors là, j'ai fait 3 tours. Et à l'entrée de la ligne droite du Mistral, pour ceux qui connaissent, à la sortie de la Sainte-Baume, j'ai mis une bielle dans le carter, donc j'ai 4 huiles d'huile chaude qui me chiquent sur le cuir.
D'accord. Ça, c'est le problème de l'endurance. Enfin, c'est notre problème. Non, c'est
les joies.
Hein, les joies de l'endurance.
Mais oui,
oui.
L'endurance, c'est excitant quand on se bat devant. Ah bon, on pourrait dire de la course, mais la course, bon. Un grand prix, tu peux te bagarrer pour la 10e place, tu cherchais un point, c'était pas mal sur 40 à l'époque. L'endurance, quand tu es 10e ou 20e, c'est moins excitant. Mais bon, ça veut dire, si tu es 20e et que tu étais sur une bonne moto, ça veut dire que tu as eu des soucis, ou des chutes ou des casses. Donc d'abord, déjà, tu dépends d'une équipe. Alors, c'est à la fois l'intérêt, c'est que d'un seul coup, tu es moins seul. Puis en même temps, sur la moto, tu es quand même toujours tout seul. Et, Et puis, voilà, il y a plein de paramètres à réunir. Et dans une équipe gagnante d'endurance, tout le monde en rêve. Parce qu'on se souvient que du vainqueur.
Ah oui, bien
malheur
sûr.
Au vaincu. C'est le deuxième. Bon, là, sur ce bol 76, les deuxièmes qui sont exceptionnels parce que c'est devenu Christian Sarron. Enfin, c'était déjà Christian Sarron et c'est devenu le champion qu'on connaît. Boulum avait moins de réussite. Mais c'était déjà deux très bons pilotes qui sortaient de la Coupe Kawa. C'est à l'époque, être brillant en Coupe Kawa, ça veut dire que l'année d'après, en Grand Prix, on était dans le coup. Patrick Ponce l'a montré, Eric Saul aussi. Donc c'était un repère, la Coupe Kawa.
Très bien. Et à l'époque, c'était deux pilotes. Hein.
Alors à l'époque, oui, deux pilotes.
Maintenant, on est à trois, même avec un quatrième.
Ouais, bon, c'est, pourquoi pas six bientôt ouais. C'est sans fin. Non, c'est deux, c'était très bien. Il y avait un truc physique parce que...
Ça devait être physique.
T'es mort.
Ah oui,
t'es mort. C'est vraiment très fatigant. Je me rappelle avec la Suzuki, moi je dormais. De toute façon, après mon relais, je m'écroulais. Je n'avais même pas la force dans le véhicule qui était trempé de sueur. Je me couchais et puis je dormais. Donc oui, c'était très physique à deux et ça aurait dû rester comme ça, je trouve. Pourquoi trois ?
Oui, bah 24 heures.
C'est long quand même.
Mais avant c'était tout seul.
En plus, si tu as des conditions climatiques qui ne sont pas terribles.
Oui, mais la victoire ou le résultat n'en est que meilleur.
Oui, bien sûr, mais...
Hein, si, oui. Plus le sommet est haut, plus quand tu l'atteins, la satisfaction est à bas avec.
Très bien, donc on va revenir un petit peu pour ce film. Hein. Noce d'or pour un bol d'or, voilà. Donc c'est sous souscription, comme on l'a...
Oui, alors comme
on
je
en
l'ai
a parlé
souvent,
tout à l'heure.
Comme voilà. Je l'ai souvent rappelé, mes deux premiers films ont été faits grâce à la souscription. Donc j'en suis très fier et très fier aussi de tous ceux qui ont soutenu, qui ont leur nom générique. Et puis là, je refais la même histoire parce que, on va dire, Strada Productions n'a pas gagné assez d'argent, même pas du tout avec les deux films précédents. Donc je ne peux pas le produire, ce film-là, sans le soutien des...
Et du coup, pour ça, pour le financer, tu proposes trois packs.
Oui.
Il y a un pack à 35, un à 55 et un à 95.
Voilà, sans les frais d'envoi, mais oh. Avec des goodies en plus. Ou bon, voilà.
Ouais, où tu as donc le préachat du DVD ou du Blu-ray, on peut choisir. La clé USB, l'affiche, le nom générique, etc.
Voilà, de toute façon. Ouais. Après,
le t-shirt éventuellement.
Le t-shirt aux couleurs, le couteau collector.
Oui, le magnifique couleurs. Couteau fait par un
professeur. Jean-Pierre Billon, Jean-Luc Billon.
Voilà, un artiste en fait.
Ah oui, oui. Ouais. T'as vu, les couleurs de l'affiche sont là. Ouais. C'est un bel Opinel. Et ses collecteurs, il n'y en aura pas d'autres. Quoi. Donc,
il y a même un livret de 12 pages si voilà. Tu veux prendre le pack complet.
Quoi. T'en es où au niveau de la souscription là ?
Il disait un tiers, c'est ça ?
Un tiers ?
J'ai obtenu en un mois un tiers.
Bah, c'est pas mal, c'est bien déjà.
Oui.
Le public est là, quoi.
Le public est là. Si ça continuait comme ça, ce serait pas mal. Mais. Comme j'ai envie vraiment je veux tout faire pour qu'il soit fini pour le bol d'or, je vais avoir un gros stress.
Alors, le bol d'or est de cette année ?
Oui.
2026 ?
Oui.
C'est quoi la date ?
Ça, mi-septembre.
Oui, mi-septembre.
Ah oui, ça oui va c'est, pas dans, être, c'est dans pas longtemps.
Alors, c'est pas possible.
Si, rien n'est impossible.
Si j'avais l'argent, si, c'est possible. Ah, si en trois mois de montage, je fais le film. J'ai plus grand chose à filmer, encore des interviews. Parce que là, au Castellet, j'ai filmé 10 personnes. Donc, je veux plein de gens de l'époque qui reviennent aujourd'hui, qui racontent des petites histoires. Mais si j'avais. Oui, si je me consacrais qu'à tourner, je pense qu'en trois mois, j'y arrive.
Donc, tu dis qu'une partie du film, enfin, une grande partie, est réalisée, en fait.
Ben, j'ai des archives, oui, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'archives. Mais quand tu as beaucoup d'archives, ça ne fait pas encore un film. Si on regarde les films historiques, hein, sur la guerre et autres, il y a beaucoup d'archives, mais n'empêche qu'il y a des films qui sont passionnants et d'autres qui sont ennuyeux.
Ouais, il faut faire un montage.
Il y a un récit. Il faut amener le récit, il faut amener les anecdotes, tout ce qu'il y a de nouveau. Non, il y a...
Raconter une histoire, en fait.
Oui, il faut raconter une histoire, de toute façon.
T'as une idée du temps ?
Le film, 1h45, un truc
1h45
comme ça. Oui. Oui, bah déjà, les interviews de tout le monde, ça représente déjà 40 minutes, c'est 2-3 minutes par personne, c'est pas grand-chose. Regarde, là, nous, qu'on parle pour donner des infos, t'as vu, c'est pas 3 minutes.
Hein. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Et il faut que ça soit dynamique, ouais.
Mais 2-3 minutes par personne, quand t'as 30 personnes, tu vois déjà ce que ça fait ?
Tu sais que tu peux déjà visionner un teaser sur YouTube. Oui, oui. Eh oui, ça c'est important.
Qui s'appelle...
ou sur la page Facebook d'ailleurs de Bernard Faux.
Voilà, et non, ou sur mon site. Alors, il faut rappeler, j'encourage les gens à s'abonner à ma chaîne YouTube. Il n'y a pas beaucoup de monde, malheureusement, pas assez. Mais s'abonner à...
On fait comment ? On tape Bernard Faux, c'est
non,
ça ?
Non, quand tu es sur YouTube, quand tu regardes la vidéo, il y a marqué un moment...
Oui, vous oui, abonnez. Non, mais pour y arriver à la vidéo, il faut marquer faut Bernard marquer. Faux, voilà, tout simplement.
Oui, bien sûr. Ouais. Bernard Faux, où tu tapes Nosdor pour un boulder, ouais. Tu vas voir le teaser, ouais. Du coup, tu es sur la chaîne, et abonné, le pouce, enfin, voilà... Et comme ça, après, les gens, ils ont les infos. Ils ont
donc, on rappelle, hein, il y a un pack à 35, un pack à 55 et un pack à 95
et alors,
pour financer
et
le...
Et après, c'est là qui donne plus. Hein.
C'est... Ah oui, c'est ouvert. C'est ouvert.
Mais
tu peux avoir des mécènes.
Bah, des coproducteurs. Ce que j'ai eu sur les autres films.
Des coproducteurs.
Des coproducteurs au-delà à 1000 euros, voire plus. Et bah, tu as une part du film.
D'accord.
On prend un tas du film, tu as mis 5 000 euros, le film coûte 40 000, tu fais le calcul, les parts que tu as.
Et donc des recettes éventuelles.
Exactement.
D'accord.
Donc
appel aux investisseurs éventuels.
Mais sur le film précédent, j'ai eu des gens qui ont mis 5 000, j'ai eu quelqu'un qui a mis 20 000.
Ah ouais ?
Ah oui, non. Parce que d'abord, ils passent ça, c'est du sponsoring, ils passent ça dans leurs frais aussi, mais il y a quand même une partie qu'il faut sortir. Et du coup, ils avaient des contrats, des conventions professionnelles de partenaires dans les règles de l'art, quoi. Ça, c'est à partir de 1 000 euros.
Et aujourd'hui, au Coupe Moto Légende, t'as rencontré des gens ? Il y a beaucoup de gens qui sont venus te voir ?
J'ai eu 42 souscriptions.
Ah, quand même, hein, c'est pas mal. Ouais.
Placé où j'étais, c'est pas mal. Parce que si j'avais été bien placé...
Et donc, tu peux sentir un peu comment est l'accueil du public par rapport à ce projet ?
Bah, ils sont intéressés. C'est des gens qui ont acheté, qui ont souscrit d'avoir sur les deux premiers films. Donc,
ils te suivent, en fait.
Bah oui, ils te connaissent, ils te suivent. On a vu les deux films. Ouais. Les deux films ont été plébiscités, je dis ça le plus simplement possible, puisque j'ai eu que des retours de gens heureux en disant qu'ils regardent, ils avaient vu en boucle, ils voient... Ils regardaient une fois le Continental qui dure 3 heures ou le film Johann Zarco. Donc il y a eu une réussite de ces deux films. Il n'y a pas eu une réussite financière parce que j'avais pas l'argent pour faire de la publicité. Et du coup.
Mais tu as rencontré ton public quand même, quoi. C'est ça qui est bien.
Voilà, il y a un public. Donc j'estime que j'ai comme un fans club de 30, 40 000 gens.
Ah ouais, quand même.
50, bah,
ah
regarde, ouais. Le film sur Nanou. Tu as vu Nanou, une femme libre. Non, ouais, tu ne l'as pas vu peut-être, mais sur YouTube, sur la chaîne Bernard Faux, on voit, parce qu'il y a 52 films quand même, des courts, des longs, là, et des films gratuits d'accès, pas ceux que je vends évidemment, mais Nanou, une femme libre, il a fait 65 000 vues.
Ah, quand même.
Donc ça veut dire 65 000 personnes qui savent qui est Bernard Faux, qui fait là.
Tu pourrais devenir influenceur, hein, carrément.
Il faut taper dans les millions. Mais... Non, par contre, Fabrice Miguet, t'as jamais vu l'hommage à Fabrice Miguet ?
Ouais, ouais, ouais.
500 000 vues.
Ouais, mais c'est un nom aussi, quoi. On le connaît, quoi.
Oui, mais 500 000 vues, bah, Zarco, ça a pas fait autant de vues. De vues, hein.
Ouais, ouais, non, c'est parce qu'il a eu aussi une mort
décédé,
tragique, c'est
voilà,
pour ça. Voilà, il y a
un
hommage, élément, quoi.
Et il y a un élément dramatique, et en même temps,
Fabrice... Il y a même un musée, d'ailleurs, il y a une statue, etc. Quoi.
Voilà, bon... C'est bien, mais personne ne s'est posé la question qui a payé le film. Parce que le film que j'ai fait, il coûte quand même 6 000 euros, par exemple. Voilà. D'aller à l'île de Man avec deux cadreurs et tout ça. Bon, c'est passé. Mais si au moins, par exemple, les 500 000, peut-être pas visiteurs, mais 500 000 vues, si c'était abonné à ma chaîne, tu vois, le nombre de gens que j'aurais.
Ouais, bien sûr. Donc on invite tout notre public à s'abonner à la chaîne Bernard Faux.
Voilà, dès que vous regardez un film... dont je suis le réalisateur qui est sur la chaîne, on s'abonne, on met un pouce, et hop, ça va augmenter, et du coup, vous serez informé quand il y aura des nouvelles vidéos, des nouvelles infos. Voilà.
Très bien, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose que éventuellement on aurait oublié,
on n'aurait pas dit.
Non, je suis très heureux. Jean-Claude Chemin est très heureux aussi. Il a été le premier souscripteur. Et il m'a aidé. Il croit beaucoup dans le film parce que il pensait que je m'intéressais qu'à la vitesse. Et là, d'un coup, je me penche sur l'endurance. Et ça lui fait plaisir. Et encore une fois, ce sera le premier film donc, sur le bol. Et je veux le réussir avec les partenaires de l'édition de La Rivière. Avec aussi un gros partenaire qui s'appelle On Air, une boîte de fitness.
Ah voilà.
Oui. Donc le directeur, bon, je ne vais pas le nommer pour le moment, mais il me connaît bien. Voilà. Et puis, non, il faut que l'information continue, hein, parce que c'est la clé. Hein.
Voilà, donc c'est Noce d'or hein, pour un bol d'or.
Voilà.
Donc Bernard Faux. Hein, c'est simple, on tape Bernard Faux. Hein,
Bernardfauxattaché.com et on tombe sur mon site. Voilà. Et là, après, on se laisse guider. On peut juste dire quand les gens arrivent sur PayPal, il n'y a pas besoin d'avoir un compte pour payer avec sa carte. Les gens disent « Ah, j'ai pas de compte ». Mais non, mais quand il y a marqué « Payer avec votre carte », il n'y a pas besoin d'avoir un compte.
Très bien, merci Bernard. Luc.
Merci Bernard. Écoute,
merci à vous.
On invite tous nos auditeurs à souscrire à l'un des packs de soutien que tu proposes. Quoi, hein,
Oui, parce que après, ils l'achèteront le film. Voilà. Et donc là, ils aident à le faire dans les meilleures conditions.
Ouais, surtout que les deux premiers, ils ont eu du succès. Donc on peut.
Et
on
oui, ils peuvent faire
un
confiance.
Gage de qualité. Quoi. Ok, merci Bernard.
Merci Bernard.
Super, merci.
Keep piling, piling, piling till you're heading.
Nous sommes au Coupe Moto Légende à Dijon, sur le circuit de Prémois. Voilà. Et nous avons l'occasion de rencontrer Daniel. Voilà.
Daniel qui est responsable communication du motoclub Vieille Bécane Beaujolais.
Voilà.
C'est ça ?
Voilà, c'est
alors,
ça.
Alors, première question, pourquoi Vieille Bécane Beaujolais au singulier ? Il n'y en avait qu'une ?
Ouais, parce que non, c'était une erreur de frappe, et après, comme ça avait été déposé comme ça, c'est resté comme ça. Voilà.
Ah ben voilà. Ah ben, au moins, comme ça, vous ne serez pas copié.
On
ne pensait...
hein. sera pas copié.
D'accord.
La remarque est juste.
Et vous avez créé donc ce motoclub pour organiser une montée historique.
Au Mont Brouilly, qui est un site particulier dans le Beaujolais, hein, dans le cru Brouilly et côte de Brouilly. C'est un joli site, ça tenait à cœur à plusieurs personnes. Dans le temps, il y avait des concentrations, Mont Brouilly. Et puis là, au club, on a une dizaine de représentants qui roulent en café rasseur, qui roulent en moto historique, ancienne. Donc ils font toutes les montées. La semaine passée, ils étaient au Ventoux. Ils font beaucoup de montées. Et on en fait une en Beaujolais. Ça va être la 11e.
Je vais poser une question un peu con. Il existe un championnat des montées ?
Non, c'est non chronométré. Il n'y a pas de championnat. C'est hors FFM.
C'est de la démo.
Il y a une RC. C'est pour faire rouler les motos, même qu'on porte 4 grises, en gros. Quoi. Le circuit est fermé, sécurisé.
C'est sur route ouverte ?
Non. Non, non, c'est sur route fermée.
Ouais, enfin, je veux dire, c'est la route que prennent d'habitude.
Oui, bien sûr, c'est la route du Mont Brouilly, pour avoir accès au Mont Brouilly, mais c'est sécurisé, c'est fermé de 7h du matin à 19h.
Mais il y a des ballots de paille, il y a quoi
Non, mais il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de.
Non, mais pour éviter les chutes, hein. Les pilotes qui se font. Non, il n'y a pas de chronométrage, mais en fait, il y a des protections, oui.
Ouais, quand même.
Il y a des airflays sur les herbes, il y a des pneus dans les fossés. Ouais, c'est sécurisé. Jean, qu'il est très fort pour la sécurité des pilotes et des motos.
Elle fait combien la montée alors de kilomètres ?
La montée elle fait 1,8 km.
Et c'est raide ou...
Il y a 14 épingles. C'est pour ça que c'est la montée du Mont Brouilly. Il y a très peu de montées comme celle-là, quoi. Mais les gens ils adorent. On a déjà à peu près à 82 engagés et c'est le 14 juin. On est limité à 100 engagés.
C'est la 11e fois que vous le faites.
Voilà.
Donc vous avez l'habitude maintenant.
Ah oui,
c'est un peu toujours
bien.
Les mêmes qui reviennent, non ?
Ouais, on aime bien avoir des nouveaux. C'est pour ça que là, j'ai distribué des flyers. Ouais. On se démerge pour faire. Non, il y a encore des jeunes qui arrivent à la montée historique maintenant.
Avec
des nouvelles motos tout le temps.
Ouais. Des jeunes ?
Des motos anciennes.
Ouais, des jeunes. Oui. Et puis il y a les motos, comme je disais, qui sont fermées dans les garages, qui ne peuvent pas rouler parce qu'elles n'ont pas de carte grise. Et là, c'est l'occasion, avec une responsabilité civile.
Hein. Ouais, bien sûr.
S'il n'y a pas de papier à la moto, il faut prendre la responsabilité civile. Et puis avec ça, on peut monter tranquille. Quoi.
Et quand tu dis moto ancienne, tu vas jusqu'à quelle date ?
C'est de après-guerre jusqu'à 80. On a prolongé un peu, c'est 87, c'est 89 maintenant.
Ah ouais, donc tu as des machines qui peuvent marcher déjà très fort.
Ah ben oui, il y en a qui s'amusent. Ouais, mais c'est pas le but de. Quand ça va trop vite, on les freine.
Ah ouais.
C'est pas le but de. Non, c'est pas une course de côte. Quand tu montes trop vite, on balance une botte de paille, comme ça, elle tombe dedans et c'est bon.
Il faut pas confondre. Course de côte et montée historique.
Voilà. C'est une démonstration du patrimoine mécanique.
C'est la même chose. On monte avec des virages,
ouais.
Mais on va pas.
Exact.
On va pas vite.
On va moins vite.
On va moins vite.
Et quand on tourne à droite, on met pas le clignotant, donc il n'y a pas besoin.
Voilà.
La route est fermée. Je le vois venir.
Ouais.
Et on arrive au col en haut, qui est un site à 480 mètres d'altitude. C'est un dixième du Mont Blanc. On n'a pas le Mont Blanc, mais on a le Mont Brouilly, c'est déjà pas mal.
Ouais,
puis il y a du vin aussi, je crois, à Brouilly.
Ouais, bien sûr, il y a du vin.
Ah oui, il y a du vin, il y a du bon vin aussi.
C'est un cru du Beaujolais, bien sûr.
Ah bah ouais.
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 On n'a pas de représentant en moto, mais vous connaissez certainement tous Jacky Grelet avec son Morgon.
Ah bah oui. Bah oui.
Voilà, donc Jacky, il a du Morgon, il a pas de Brouilly. On doit être là aujourd'hui, je crois que je ne l'ai pas croisé.
Oui. Non, il n'est pas là, on cherchait
là,
après. On cherchait après, on ne l'a pas vu. Et donc ta manifestation, là, la montée historique du Beaujolais, Mont Brouilly. En plus, l'entrée est gratuite.
L'entrée est gratuite. Le samedi, il y a les vérifications. On a des gens qui viennent de partout, du nord, du sud, de Marseille, du Ventoux. De partout, il y a d'autres montées historiques qu'on a des représentants.
D'accord.
Les gens, c'est un peu des échanges. Ils viennent chez nous après.
Okay.
Et le samedi, on organise une balade qui fait 150 km. Mais là, en moto homologuée.
Ouais, donc il faut une carte grise.
Ah oui, il faut que les gens ils aient soit une moto dans une autre moto. Quoi.
Donc comment ça se passe ? Il y a un parc fermé.
Ah ouais,
le
ouais,
soir, il y a une ambiance ou ça ?
Bien sûr, il y a pas le samedi soir pour 150 personnes à peu près.
Oui.
Il y a des gens qui viennent
un peu à Paella. Concert, non ?
Ouais, mais c'est l'ambiance beaujolaise. Hein, vous n'allez pas nous l'enlever, celle-là.
excellent. Il y a une expo de moto aussi.
Oui, l'expo, on l'a fait plus ou moins parce qu'on a moins de place, parce que le Mont Brouillé, c'est tout en pente de partout. Et quand on a beaucoup de monde avec les camping-cars, les gens maintenant, ils viennent plus avec une petite remorque, hein, aussi bien en historique que là.
Oui.
Donc,
ça a changé.
L'expo, l'expo, on peut en faire une, mais non, puis les gens, ils viennent pour les voir rouler, ils viennent pas à l'expo. Ils viennent pour voir rouler les vieilles motos.
Oh, ça pourrait être sympa aussi de parler avec le pilote de sa moto.
Ah, mais on peut, c'est ouvert. Hein. Ouais, voilà. Oh, ouais, bien sûr. Ouais. On a un speaker aussi chez nous, c'est Olivier. Hein.
Oh, bah oui. Ouais. Olivier, tout le monde le connaît.
Bah ouais.
C'est payé, c'est payant pour les participants.
C'est 70 euros l'inscription. Pour faire, on essaye de faire, bon bah si c'est un temps comme aujourd'hui, les gens ils font 8 montées en tout. 4 l'après-midi, 4 le soir. Il faut savoir que le soir ils sont un peu moins à monter, et puis du matin aussi. Et puis après-midi, il y en a qui font la sieste, donc ça raccourcit un peu les sessions, ça va plus vite. Voilà. Vous avez tous les détails.
T'as une population vieillissante, on dirait un peu quand même.
Ah non, on est content, justement. Il y a des bonnes relèves, Il faut les aider, il y a des bonnes relèves.
Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que
c'est bien.
Que des interviews, on en a fait beaucoup de clubs, et il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a plus de jeunes.
Non, nous, le vice-président, Kevin, il a une quarantaine d'années. Hein. Non, puis même en moto, il y a de plus en plus de jeunes, en historique. Ça coûte moins cher, et puis c'est un loisir qui n'est pas comme des courses, quoi. C'est pas le même engagement, il n'y a pas de licence FFM, ça coûte moins cher.
Oui, voilà, c'est moins cher.
Et puis le plaisir de faire rouler des motos, quoi.
Ouais. Alors les vieilles bécanes du Beaujolais, c'est quoi? C'est un club? C'est, depuis quand ça existe?
Depuis 2015.
De membres?
En membres, on est une trentaine, 40 membres pour maintenant.
D'accord.
Que des gens du Beaujolais?
C'est dommage. Non, il y en a un peu de partout. Il y en a de Bourg, il y en a. Ah ouais, non, il n'y a pas forcément. On n'est pas limité à ça. C'est dommage, il y a une réunion samedi prochain, j'aurais pu te le dire, mais là, tu me demandes.
Voilà.
Alors, attends, donc pour animer, on va dire, cette montée historique, vous faites aussi une tombola?
Eh bien, c'est depuis l'année passée, le 10e anniversaire. Il y a eu tellement un bel engouement avec cette tombola que là, ben, y a une DTMX un peu similaire à l'année passée.
DTMX a gagné.
Ouais. C'est notre président qui l'a remis en état. Et puis voilà, l'année passée, je ne sais plus. Et puis, il y a une caisse à savon. Parce que dans le village, il y avait une caisse à savon, et c'est la caisse à savon du BBB.
Ah oui.
Voilà. Avec l'écusson de Jackie, hein, Morgon, je ne sais pas où
Jackie
il est.
Jackie Morgon,
ouais. Ouais, il est là, en bas.
Hein, tu le vois?
Il est là, ouais.
Oui. Ouais, c'est obligé qu'il y soit.
Et il y a aussi, du 3e au 6e lot, il y a un équipement de motard. C'est quoi? C'est un blouson?
Ouais, c'est des lots fournis par nos concessionnaires de Villefranche. Ouais, l'atelier du motard, Sprintback, Omio Moto, Triomphe, voilà.
Ah ouais, et tu choisis ou l'équipement ou comment ça marche?
En principe, non.
Non,
c'est pas fait d'avance. Hein. On ne sait pas qui c'est qui va gagner le blouson. On choisit pas la taille. Hein,
c'est... c'est con.
Moi, quand j'achetais les lots, je prenais toujours pour moi, mais c'est pas moi qui le gagnais. Hein.
Ah ouais. Nous, on pensait que c'était truqué, ces trucs-là. C'était toujours un mec du club qui gagnait.
Non, comme là, la moto, il faut pas croire que la carte grise, elle est bien faite à la personne. Alors, on n'y sait pas. Hein. Non, arrêtez. Vous êtes des blagueurs, les gars. Là.
Et du 7e au 11e lot, c'est du Verlot.
Ouais.
Alors, je me demande, il n'y a pas du... est-ce qu'il y a du Beaujolais?
Il y aura du Morgon, il y a des Magnum. Il y a des Magnum à Jackie, c'est sûr et certain.
Je m'en doutais.
Ouais, Jackie, c'est notre populaire, hein, c'est notre pape du Beaujolais.
J'avoue que depuis.
Depuis
Ricard et l'Armagnac, on se barre. Hein.
Oui, voilà. Ça, t'as rajouté, c'est pas pour moi.
Et ça coûte, la tombola coûte 5 euros le ticket. Donc pour 5 euros, tu peux avoir une 125 DTMX.
Voilà,
la vache.
Ah ouais, avec papier et tout, hein, carte grise et tout. Hein.
Ouais,
c'est pas une moto.
C'est bon, les gendarmes ils sont partis. C'est bon.
Non, mais en fait, il n'y a que dalle. tout réglo. Moi, je suis bien content de vous avoir rencontré ce matin. Là. C'est super le calendrier que vous faites. J'ai vu qu'on n'était pas dedans. Donc, à partir de l'année prochaine, c'est impératif. On ne paraît pas dedans, il ne faut pas le sortir. Ça ne sert à rien.
Faut que tu nous donnes l'info. C'est quand
La date, on la connaît pratiquement d'une année sur l'autre. Parce qu'au Mont Brouilly, il y a aussi des journées pour les vélos qui sont fermées. Il y a 3 journées. Samedi prochain, par exemple, il y a un trail de Christian Aquin, qui est un pilote endurance, hein, Christian et Paul Aquin, voilà, ils font un travail en souvenir de son épouse, Mathilde.
Donc
il y a beaucoup de choses au Mont Brouilly.
Voilà, donc ça veut dire que tu n'as pas le choix sur la date, quoi, c'est ça
On la retient, si, c'est souvent le deuxième week-end de juin, normalement. D'accord. C'est comme ça.
D'accord. Début juin.
Début juin, parce que la première fois qu'on l'a fait pour faciliter l'organisation, on l'avait fait pour Pentecôte, donc c'est-à-dire ce week-end-là. D'accord. Enfin, Pentecôte, ça change, hein. On l'avait fait pour avoir le lundi, parce qu'on bossait tous, on était tous des jeunes, hein, il y a 10 ans, donc et on avait fait pour Pentecôte, ouais. Tu peux regarder sur ton calendrier, en 2016, en 2015, c'était Pentecôte.
C'est une Ossa. Ouais. Une Ossa qui vient de passer.
Une SPQ, ouais.
Une SPQ.
C'est une SPQ. elle a l'embout. Moi, c'est encore pire que ça.
Ouais, c'est pire que ça. Bon.
Alors, faut savoir aussi que nous, on passe quand même aux décibels. Hein. Les motos, faut pas qu'elles fassent du bruit. Hein.
Ah oui.
Non,
ah
faut
oui.
Qu'il y a beaucoup de motos d'origine aussi, en ancienne. Mais autrement, les cafés rassorts, tout ça, ça passe aux décibels.
Alors justement, on pourrait peut-être en parler de cette histoire, parce que les habitants autour...
Il n'y en a point. Pour ce cas, ils partent en vacances ce jour-là, on les connaît bien.
Est-ce que vous n'êtes pas embêtés, tu sais, avec les écolos?
Non, on est super
ça,
bien accueillis. Non.
Tout ce qui se passe, on n'a plus le droit de rien faire. Hein,
ouais. Y a
donc vous n'êtes pas embêtés, vous?
Nous, on a une chance. Les vignerons, on joue le jeu aussi. On prend le vin local, dans la buvette, pas du... Et ils sont super sympas. Et
voilà.
En fait, ça gêne la famille Gosse, Bernigan et Trichard. Et ils sont avec nous toute la journée.
Ça va alors.
Ah ouais, c'est très bien.
Tout ça, c'est dans votre poche.
Ouais. Non, mais
aucun souci.
Et après, de la montée, à part un château d'eau, c'est tout ce qu'il y a. Donc ils nous emmerdent pas, lui. Et après, il y a la Vierge Marie à la chapelle, mais de l'autre côté. Donc c'est
ceux qui sont arrivés au bout.
Ouais.
Donc pour ceux qui seraient intéressés, il y a encore possibilité de s'inscrire.
Ouais. Hein Et il y a le site.
Je vois l'adresse mail, mais je vois pas le site. Hein.
Eh bien, le site, parce que c'est pas les bons flyers, il y a pas. Non, mais si, c'est Parguzi 01, ça c'est le secrétaire.
Ouais, ok, d'accord.
@hotmail.fr. Ouais.
Sinon, il suffit de taper Vieille Bécane Beaujolaise au singulier.
Voilà,
et on le trouve forcément avec un moteur.
Ça veut pas dire qu'il y en a qu'une. On se limite à 100 participants.
Ok, ça marche.
On va donner la merci. Hein.
Ouais, merci
à
vous.
Pour toutes ces infos.
Et vive le Beaujolais. Et
vive le Beaujolais. Hein.
Bravo, merci à vous.
Allez, ciao.
Check out the buzz.
Donc on est avec Patrick, le président de l'association Les Coyotes.
Coyotes Racing Team, ouais.
Et Brice,
qui est membre des Coyotes depuis maintenant.
Combien de temps ?
Depuis maintenant une quinzaine d'années, mais ça va faire 22 ans que je connais les Coyotes.
Et t'es dans le bureau, t'as une fonction ?
Je suis simplement membre.
Mais un membre bénévole actif.
Oui, oui, et puis bon, le truc de Brice, c'est qu'il est sur Dijon et nous, on est sur Nogaro pour le manif. Donc,
voilà, pour les coupes moto-légendes, ça tombe bien qu'il soit sur Dijon. Voilà.
Il est sur place, il joue à un domicile.
Et c'est pratique pour participer à la vie de l'association quand tu habites à Dijon et que le club se trouve
On s'appelle.
Il est où le club
Sur Toulouse.
Le social, il est à Toulouse, c'est ça. Ouais.
On s'appelle, on se tient au courant. Même si on est éloigné, je reste quand même à l'écoute. Je suis quand même conscient je sais ce qui se passe au sein du club. On renseigne, je me donne mon avis. On échange. Même si on est loin, on n'est jamais vraiment loin.
Dès
que je vais quasiment tous les ans, hormis là ces derniers temps à cause du travail, mais sinon tous les ans, je descends. Quoi.
Avec nos outils technologiques d'aujourd'hui, tu es proche de tout le monde tout le temps. Si tu veux, c'est pas un problème quoi.
Oui, et puis Brice à l'occasion du week-end Coyote, il tient un poste hyper important, il s'occupe de la buvette. Faut pas se louper.
Ça c'est important.
Il me semble qu'il y en avait deux d'ailleurs de buvettes, non ? Ah, il y a la buvette de l'association et puis...
Oui, après tu as plusieurs food trucks au sein du circuit qui bossent pour.
Et je me souviens avoir rencontré une fois quelqu'un qui fait un alcool local.
Oui. Jean-Pierre Cazailleux, le floc de Gascogne.
C'est ça, il est là depuis la première manifestation.
Tout à fait, depuis la première. C'est notre potion magique.
C'est druide.
Ah ouais.
Donc là, on est en train de parler des journées Coyotes qui sont organisées depuis 29... Enfin, ça sera la 29e année année. Quand même, c'est pas mal. Donc c'est le 8 et 9 août, c'est toujours le premier week-end du mois d'août.
Là, on a décalé au deuxième, mais c'est début août.
Août. Ouais. Et donc ça se fait sur le circuit Nogaro.
Dans le Gers.
Sympa le
circuit. Oui. Et puis là, depuis 29 ans, on commence à avoir nos habitudes, forcément.
C'est-à-dire
On connaît tout le monde, on a un gros partenariat avec la mairie de Nogaro. Enfin voilà, le petit plus des Coyotes, c'est qu'en fait, on fait participer tout le village au moment du week-end Coyote.
Le village de Nogaro ?
De Nogaro. Alors qu'il y a d'autres manifestations, les gars ils arrivent avec leur gros camping-car, ils se mettent sur le circuit, ils n'en sortent pas. Donc malheureusement, le village, les petits commerces, ils n'en profitent pas de la manifestation.
Ah oui,
financièrement, je parle.
Et comment tu les fais participer alors ?
Les gens vont faire des... On travaille avec le petit carrefour de Nogaro, on travaille avec tout le monde, on se fournit chez eux pour nourrir les coyotes, parce que ça bouffe quand même un coyote. Hein. pour les 3 jours, 3-4 jours là. On a même monté, fini les sandwichs jambon beurre. Maintenant, on a une équipe cuisine carrément pour nous faire les repas pour nous. Quoi.
Vous êtes combien alors
quand on fait la manif, on monte avec le bénévole une cinquantaine. Quoi, parce que il faut de l'encadrement, il faut plus après tout le staff, le staff médical. Ça, c'est compris dans l'allocation du circuit, plus le service technique. Commissaire de piste. Tout à fait. Et on ne doit pas être si mauvais que ça, parce que les commissaires de piste, ils se battent tous pour venir bosser chez nous, parce que c'est cool. Quoi.
Alors explique-nous, c'est des courses ou des démos ?
Non, c'est de la démo.
Démo.
Sauf que, après, démo, quand les mecs sont sur la piste...
C'est le but, c'est votre plaisir. C'est le but.
Voilà.
Alors, t'as pour info, l'ami, t'as 4 séries moto anciennes et 2 séries de sidecar.
C'est ça. Plus une bourse d'échange à l'intérieur du circuit.
Ouais.
Donc pièces détachées, tout ça, une bourse d'échange.
Avec des professionnels et des particuliers.
Ouais, voilà, c'est une bourse d'échange. Ouais. Et on organise dans l'enceinte du circuit maintenant, ça fait quelques années qu'on le fait, un concert rock le vendredi soir et un concert rock le samedi soir.
Ah ouais.
En sachant que l'entrée pour le week-end est gratuite.
Ah oui.
Ok.
C'est bien ça.
Ouais. On doit pas être.
Ça vient de plus en plus rare.
Ouais. Je crois qu'on est. Ouais.
Et ça c'est depuis les débuts.
Ouais. On est sans doute dans les dernières manifestations être gratuites.
Et comment tu fais pour financer alors ?
La drogue. Non. Non, c'est de plus en plus dur. Mais
je peux le laisser sur l'interview ça.
Il est de Toulouse, ça va.
Toulouse, à Lille, si on verra.
Ouais. Non, le plan, c'est forcément les inscriptions des
pilotes.
Des pilotes, ouais. Plus après, la buvette. Et on a ce qu'on appelle une boutique. Et la boutique pour vendre nos accessoires, casquettes. Les casquettes, voilà. Les t-shirts, et voilà. Mes suites.
Et ça va, le bilan financier est correct.
Pour l'instant, ça va, mais malheureusement, ça devient de plus en plus dur parce que tout augmente et que pour l'instant, on veut toujours faire l'entrée gratuite. Donc,
ça. Vous devez avoir du monde.
On est pas mal.
Combien à peu près t'accueilles
Dans le week-end, 10 000 personnes.
10 000.
Sur tout le week-end, ça fait pas mal.
Tu m'étonnes que les commerçants du village, ils sont contents.
Ouais, c'est cool. Alors je te dis pas la galère. Alors ça c'est un truc de fou là aussi quand il y a eu le Covid. Alors, tous les circuits de France étaient fermés.
Sauf vous.
Et va savoir pourquoi Nougaro c'était ouvert.
Parce que c'était gratuit.
Non. Et en fait ça a été dingue parce qu'on a récupéré tous les pilotes comme Chemarin, Plisson, Bertin.
Qui pouvaient pas rouler du coup.
Qui roulaient eux donc sont en région parisienne. Ils ont l'habitude de rouler sur leur circuit l'été en région parisienne, ils n'ont pas besoin de descendre Nogaro. Nogaro, ils le fréquentaient à l'époque quand ils faisaient les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde. Donc tous ces pilotes de l'époque connaissaient Nogaro, mais ne connaissaient pas la manifestation. Et quand il y a eu le Covid, ils ont appris que Nogaro était ouvert.
Ils sont tous venus.
Il leur fallait leur dose d'adrénaline. Ils sont tous descendus et là ils ont kiffé grave et depuis c'est.
Les mecs ils ont essoré la poignée, ils se sont fait plaisir.
Et puis ils ont trouvé l'ambiance super sympa. Ouais.
Du coup pour le public ça devait être super super cool cette.
Et puis les gars ils sont quand tu as l'accès, sur le circuit, tu peux te balader dans les paddocks, discuter. C'est vraiment. Et le samedi soir, on organise l'apéro pilote et tous les gars viennent. Tous les gars viennent exposer leurs motos dans la voie des stands.
Ah d'accord.
Donc t'as 30, 40 motos, 50 motos et on fait un petit apéro. Cool.
Comment il est le circuit Nogaro? Parce qu'ici on est à Dijon, il est vallonné ici le circuit.
Il est plus petit. Bien sûr, je dirais qu'il fait la moitié d'ici, quoi. Enfin, en volume. Mais après, au niveau circuit, Caroline, la patronne du circuit, là, elle a refait une chicane il y a 2 ans maintenant. Donc, elle a un peu modifié. Non, après, c'est un beau circuit. Hein. Et puis, nous, ça fait 29 ans qu'on y est.
Je te rappelle le nom du circuit, l'ami, c'est le circuit Paul Armagnac. Ça s'invente pas.
Non. On y est à fond.
Après, Paul Ricard.
Paul Ricard, oui. Ouais. Armagnac, oui.
Mais celui-là, il ne sera pas vendu aux Anglais. Celui-là, on se le gardait. Ouais.
Voilà. On peut s'inscrire encore pour participer aux démos de moto ancienne. D'abord, moto ancienne à partir de.
Jusqu'aux années 84.
Oh bah ça va, c'est déjà,
ouais.
Déjà pas mal. Et on peut s'inscrire, il y a encore de la place.
Oui, vous avez le site internet.
Voilà, donc il y a le site internet, je le rappelle, c'est coyoteracingteam.com tout simplement.
C'est ça.
Et donc il y a toutes les coordonnées dessus. Hein. Donc c'est Dudul qui s'occupe des motos.
Voilà.
Et c'est Christophe Terrien, Titoff, qui s'occupe des sidecars.
Tout
parce qu'il y a pas mal de sidecars qui roulent
aussi. Oui, on a des manches de side anciens et récents.
J'y suis allé déjà et j'y ai vu une fois un singe faire. Le poirier.
Ouais, il y est toujours.
Il est toujours.
Il est toujours et il arrive toujours à faire le poirier. Hallucinant.
Et puis c'est un side qui marche fort quand même. C'est pas un vieux
et,
truc.
Et à une époque, on a eu même la visite, et puis là, il a roulé avec son side avec Alain Michel.
Ah oui.
Notre fameux champion du monde de sidecar de l'époque.
Oui.
Il était venu nous voir au début.
D'accord. C'est des sessions de combien?
Là, on est sur un quart. Je dis une connerie.
15-20 minutes.
Ouais, 10-15. Ouais,
15-20 minutes.
Ouais.
Donc ça fait, on tourne combien de fois dans la journée?
Ouais, deux matins, deux l'après-midi. Deux ou trois l'après-midi même.
D'accord,
ouais.
Donc sur le week-end alors, samedi, dimanche.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Deux le matin, deux l'après-midi, ça fait 8 fois.
Ouais.
C'est bien, c'est bien.
C'est bien. Alors l'année dernière, comme on avait une manche en plus, enfin c'était un peu, on n'était pas bien calé. On avait réduit le temps des manches et puis forcément ça n'a pas plu. Donc on a tout recalé, on repart comme avant et voilà.
Et moi, je me souviens qu'il faisait très chaud. Il fait quand même souvent très chaud cette
folie.
Période.
Ah ouais, c'est un truc de fou.
C'est pas pour rien qu'on dit qu'on a un réchauffement climatique. Là, maintenant, c'est de pire en pire.
Mais
C'était justement à l'époque du Covid. Il faisait, je crois, 40 degrés ce jour-là.
Comment se fait-il que vous faites ça au mois d'août? Il n'y a pas moyen de faire peut-être
en hiver
juin, peut-être pas en hiver. Mais...
Ouais.
En mai, peut-être.
On sait mai-juin. En fait, il y a plein de. Y a plein
là,
de
au mois d'août.
Il y a plein de dates. Il y a plein de dates toute l'année. Là, on s'est calé. Maintenant, ça fait 29 ans. Je suis pas sûr qu'on fasse une dizaine d'années de plus.
Ouais.
Donc là, je pense qu'on va peut-être refermer le livre des coyotes.
Ah ouais.
Ouais,
parce que tu disais que ça fait 32 ans, c'est ça que.
Ben moi, ça, ouais, voilà. Moi, j'ai créé la sauce 29 ans sur les papiers. Mais
t'es géniteur alors. Géniteur des coyotes.
C'est ça.
Waouh.
Ouais, c'est un truc de dingue parce qu'en fait, sur la région toulousaine, j'avais plein de potes tous moto. Et chacun faisait sa fiesta à droite à gauche. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, les gars, ça serait bien qu'on fédère un peu tout ça. Et voilà, et c'est parti d'un copain qui avait des autocollants, des planches autocollants. Et puis on a petit à petit, pim, pam, poum. Mais parti comme c'était parti, on donnait pas cher de notre manif. Et puis ben là, gentiment, au fil des années, on est monté sur le podium des trois manifestations les plus cotées en France. Quoi.
Ah ouais?
Ouais, c'est cool.
Classe.
Voilà, avec tout ce qui s'est passé pendant 29 ans.
Et donc là, tu dis maintenant, 29 ans, ben, 30e année l'année prochaine, peut-être que oui, elle aura lieu cette manifestation.
Ah oui, tout à fait. Ouais, elle aura lieu. Et,
peut-être que vous manquez un petit peu de...
De jeunesse.
De jeunesse.
Ben là,
de
sans problème.
Le
problème, c'est que. Ben, je sais pas si vous
voyez. C'est le gros problème des associations.
Oui, et puis c'est surtout la mentalité. Entre maintenant les motards qui. Respect, hein, le gars, il est en bécane, c'est des jeunes, ils ont des GSX-R, ils ont des motos récentes, forcément. Tu lui parles d'un Manx ou tu parles d'un Norton, tu parles d'un vieux 900 SS Ducati.
Ben oui, c'était une four en cadre Martin, il va te regarder ou
ils s'en foutent.
Ah oui, ils savent même pas ce que c'est, quoi. Ils savent même pas ce que c'est. Après, c'est comme ça, c'est la vie, c'est bon, chacun. Mais forcément, comme nous, on a cet esprit de moto ancienne, et c'est pas facile à faire passer, quoi. Enfin, voilà, maintenant, puis le problème aussi, c'est que les motos anciennes qui roulaient à l'époque, eh ben, elles ont pris de l'âge, elles sont mécaniquement peut-être plus en état. Ouais. Les pilotes.
Et puis les pilotes aussi.
Ils ont plus 30, plus 40, plus 50, plus 60, plus 70. Et ça commence à faire, quoi.
Ouais, parce qu'en moto ancienne, tu montes jusqu'à 84, c'est ça?
Ouais.
Tu disais, ouais. 84, c'est pas très ancien. Enfin, pour nous, c'est pas très.
Ouais. Donc voilà.
Ça commence à tourner fort déjà, quoi, les machines.
Ouais. Bah, on va commencer à taper les premiers GSX-R, choses comme ça. Mais bon. Alors, ce qu'on voulait faire aussi, c'est. Ne pas introduire les fourches inversées. Mais bon, maintenant, regarde les Suzuki, les RG.
Ouais.
RG Gamma, elles sont en fourche inversée, les derniers modèles. Ça passe encore dans les dates. Enfin bon, ça c'est. On peut plus. Et puis on peut plus se permettre maintenant de refuser du monde parce que malheureusement, il y en a de moins en moins. Quoi.
Voilà.
Donc on essaie de rester toujours dans l'optique des journées coyotes à l'ancienne avec un esprit. C'est surtout l'esprit qui compte. Après, ben, on a la chance d'avoir de belles motos, des gars qui viennent régulièrement depuis des années.
Ouais.
Et ça, c'est super. Quoi.
Ouais, puis tu disais, on a accès au paddock facilement,
voilà.
on peut voir les pilotes,
sûr.
Les machines, on peut discuter avec eux.
Ah oui, bien sûr.
C'est sympa.
Ah oui, sont sans problème.
Donc voilà, c'est les coyotes, c'est comme ça.
Très bien.
Je me souviens qu'il y avait un relais motard pas très loin, un camping.
Tout à fait.
Qui accueillait d'ailleurs les visiteurs.
Ouais, tout,
ben, il est encore ouvert ou...
Oui, tout le.
Comment il s'appelle? J'ai oublié, le relais de la source, non, c'est pas sûr.
C'est vrai que depuis le temps, ben, pas mal de nos garoliens ont installé chez eux des gîtes, des relais pour accueillir les gens, ben, pas que forcément sur les journées coyotes, mais quand tu as les superbikes et tout, les gars ils viennent avec leur bécane, et puis que ce soit les motos ou les voitures ou les camions même, hein, pour trouver un hébergement au moment de la manifestation, c'est pas facile. Quoi.
Ouais. Si tu as 10 000 personnes dans un petit village, forcément ça coince.
Ça coince, oui.
Donc je rappelle la date, 8 et 9 août 2026, les journées coyotes sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro. Le petit village de Nogaro. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site internet coyoteracing.team.com.
C'est ça, et ben on vous attend avec plaisir. Et n'hésitez pas à rentrer en contact.
Alors, donc on disait qu'il y avait des spécialités culinaires qu'on pouvait découvrir. Donc il y a l'armagnac qui pilote, c'était le floc, c'est ça,
le
floc.
Il y a le magret.
Tu peux nous préciser un peu
le floc. C'est quoi le floc?
Alors c'est secret. C'est une recette secrète.
Non. Le floc, c'est une mare de raisin.
Ouais. Ah oui.
Ouais. Voilà. Et
c'est pas très fort. Hein. Ça fait je sais pas 15% du haut.
C'est ça le problème.
C'est très très.
C'est très très. C'est ça le problème. C'est pas très fort. Ça se boit comme du petit lait, mais c'est voilà, c'est.
Il y a un stand de dégustation d'ailleurs sur
circuit. Ouais, Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, c'est un fidèle de la première heure, quoi. Donc voilà. Ouais. Voilà. Que du bon.
Voilà, il n'y a que du bon, voilà.
Et du bio. Il faut se mettre à la page maintenant, il faut du bio.
Ah bah oui.
Et tout ça, entrée gratuite.
Entrée gratuite.
Ouais. Dernière manifestation gratuite.
Voilà, et aussi, tu peux nous donner un ordre de prix, des engagements pour les...
On est pour tourner
sur le circuit.
Alors désolé, tu l'as sur le site.
Sur le site, ouais.
C'est 130 euros pour les motos. Et
130 euros pour 8 sessions.
Ouais.
Pour le week-end.
Sessions par jour.
Je voudrais pas raconter de conneries, regarde-le sur le site.
Sessions par jour.
Et après, ouais. Pour les sidecars, c'est dans les 200 balles, je crois.
D'accord.
Voilà. Non, après, enfin, financièrement.
C'est raisonnable.
Ouais, les gars, ils trouvent ça plutôt cool. On est toujours dans les clous.
Pour nous, il faut juste traverser la France. Ouais.
Voilà.
Voilà.
Ouais, c'est un peu le truc. C'est un peu ce qu'on a fait nous aujourd'hui, enfin ce week-end, pour monter à Dijon, quoi, voilà. De Toulouse. Voilà. Mais bon, c'est pas tous les jours.
Ok, non, mais avec plaisir. Moi, je suis déjà allé deux fois et quand je peux y retourner, j'y retournerai sans problème. Donc, 8 et 9 août, les Journées Coyotes, la 29e édition. Et plus d'infos sur coyoteracingteam.com. Merci, Patrick.
Avec plaisir.
Merci à vous, c'est un plaisir. Merci.
À bientôt. Ouais.
Merci.
Voilà, le magazine de la moto, c'est terminé. Nous vous souhaitons un bon dimanche et surtout une bonne semaine. Restez à l'écoute de Radio Campus Lille et rendez-vous même heure, même endroit, dimanche prochain sur le 106,6.